Libre, je visis. La bonne éducation. Un atelier d'écriture radiophonique proposé par la compagnie Est-ce vrai, dans le cadre du laboratoire intergénérationnel des bâtisseurs et rêveurs d'écoles. Une investigation fleuve de 2 ans sur des territoires multiples pour interroger l'école, celle d'avant, d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. De novembre 2022 à mai 2023, Yana Klein et Stéphane Choucroun ont travaillé à la réalisation d'un podcast avec une classe de première STI 2D du lycée Clément Ader à Athis-Mons, en collaboration avec leur professeur de français Laurent Bernal et le Théâtre des Bords de Seine. Ils ont été à la rencontre des élèves pour débattre de l'école, de la transmission et pour imaginer comment nous pourrions continuer à apprendre les uns des autres. Chapitre 1. Le jour où Yana et Stéphane sont arrivés en classe et où ils ont failli finir encastrés dans le mur.
Le 17 janvier 2023, Yana Klein et Stéphane Choucroun de la compagnie Est-ce vrai sont venus faire un atelier dans notre classe de première STI 2D avec notre professeur de français, Laurent Bernal. Ce que vous allez entendre est la reconstitution de cette expérience. C'était la fin de la récré. Et les deux intervenants se sont mis devant notre salle de classe. La sonnerie a retenti 3 fois et les élèves sont arrivés en courant afin de prendre leur place parce qu'ils ne voulaient pas se faire voler leur place. Du coup, ils sont arrivés en courant, en se poussant. Et Stéphane et Yana se sont plaqués contre le mur pour ne pas se faire encastrer à tout jamais dans les murs du lycée Clément Ader. Et là, Lucas, en retrait, a dit à Yana: est-ce que c'était vraiment la routine? Est-ce que ça nous a vraiment fait rire? Peut-être, je ne m'en souviens pas. En tout cas, ils ont fini par rentrer dans notre classe.
Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Stéphane.
Là, je m'appelle Yana.
Donc, on va se voir 6 fois et on va essayer de réaliser un podcast ensemble.
Auparavant, on avait échangé avec votre professeur un peu au sujet de ce que vous étiez en train de faire. Et vous avez travaillé sur Gargantua de Rabelais, c'est ça? Sur la bonne éducation?
C'est ça.
Donc Yana et moi, on co-dirige une compagnie de théâtre. Et donc en ce moment, on prépare un spectacle. Pendant toute l'année, on fait une grande investigation sur l'école. On veut travailler sur la thématique de l'école, en prévision d'un spectacle qu'on fera en 2024 sur cette thématique, qui s'appellera Notre école tragicomédie. Et là, pendant toute l'année, on fait plein d'ateliers avec plein de populations différentes, avec plein d'âges différents, plein de classes différentes. Et donc là, ici, au lycée Clément Ader, on travaille avec 4 classes. Et au collège Mozart, on travaille avec 2 classes. Et donc, en fin d'année, au mois de juin, le 7 juin pour être précis, on présentera au Théâtre des Bords de Seine un spectacle qui va raconter l'expérience qu'on vit avec vous autour de cette thématique de l'école. Donc ça vous intéresse de travailler sur l'école, ça va?
Non.
Ah, voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui... Enfin, on a souvent ces réactions-là, mais pourquoi?
C'est pas nous qui l'avons choisi.
Vous auriez préféré faire un podcast sur quoi? Sur un autre sujet? Sur quel sujet?
Sur le foot.
Ouais, le foot.
Sur le foot?
Non.
Oui.
Sur quoi alors?
Je me souviens, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il nous ferait parler de l'école ou encore de la bonne éducation? Mais pourquoi pas? Et là, Stéphane et Yana nous ont demandé:
c'est quoi pour vous une bonne éducation?
Pour moi, une bonne éducation, c'est faire ce que tu veux tant que tu déranges pas les autres.
Quand on est poli, quand on dit bonjour, quand on vous voit les gens et qu'on les respecte.
C'est ce que je pensais, parfois je me disais, la liberté c'est une opinion, l'éducation c'est comme une opinion, c'est différent en fonction des parents.
Pour moi, une bonne éducation c'est quand on respecte les règles fixées par la société, ou encore quand on sait se tenir en société, encore une fois. C'est quand on a été bien éduqué pour le vivre ensemble.
Pour moi déjà, chaque foyer a une culture, a une éducation différente, donc... C'est compliqué de définir une bonne éducation en soi.
Pour moi, ça vise surtout la liberté de m'exprimer, de faire ses propres choix, de devenir autonome.
C'est quoi être autonome?
Être autonome, c'est savoir se débrouiller seul, être mature, c'est se comporter en personne responsable.
C'est dépendre de personne et savoir faire les choses soi-même.
À quoi ça sert d'être bien éduqué?
À donner une bonne image de soi-même et une bonne image du travail que nos parents ils ont pu faire quand on était petits.
Ça reflète l'éducation des parents.
La bonne ou la mauvaise éducation?
C'est ce que j'ai dit. Et genre ça, si on fout le bordel en classe, ça reflète l'éducation des parents.
D'accord.
Non, moi je pense que ce que mes camarades veulent dire, c'est que si on reflète une mauvaise éducation en classe ou bien en dehors de chez soi, ça reflète que l'éducation que nous ont donné nos parents, que nous ont procuré nos parents. Donc en soi, c'est un manque de respect envers les parents et aussi envers les personnes qu'on dérange. Correspondre à un minimum de normes dans la société et rentrer dans la norme.
Ça sert à exprimer une opinion personnelle et à propos de nous, mais aussi à propos à pouvoir comprendre ce que les autres et interpréter leur éducation par la nôtre.
Une bonne éducation, ça peut servir à trouver un bon travail, car ça nous donne une bonne image de soi-même, donc ça peut nous faciliter à trouver un travail.
Dans deux maisons, ça peut être complètement différent. On peut avoir une image très différente de ce qui est une bonne éducation. Moi, tant que je reste dans la loi, ça va. Comme les gens ne grandissent pas pareil, on ne peut pas savoir ce qui est une bonne éducation ou pas. Ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils sont dans la loi. C'est chacun son éducation du moment qu'elle respecte la loi, un cadre commun.
Pour moi, une bonne éducation, c'est apprendre de ses erreurs. Ouais. Attendez, apprendre de ses erreurs. Et on a vu lu un livre. Qui s'est nommé Gorgonchua. C'était un enfant qui apprenait de ses erreurs tout seul. On l'aidait pas.
Voilà. Est-ce que le fait d'être en classe, d'être en groupe, c'est quelque chose qui peut vous aider à apprendre?
Non.
Oui, on apprend en collectivité et de la collectivité.
Apprendre en groupe, c'est pas forcément facile s'il y a des éléments perturbateurs. Ça peut être aussi un point positif s'il y a des gens justement qui ont plus de facilité à apprendre que les autres.
Je trouve que apprendre en collectivité, c'est vraiment pas facile parce que la classe, elle peut te faire régresser comme elle peut te faire évoluer en fait. Tout dépend de l'environnement en fait, selon moi.
Nous, par exemple, ça va, à des moments c'est drôle, mais à d'autres, on abuse un peu et ça commence à devenir vraiment, vraiment, mais énervant. Ouais, beaucoup de bazar. Au début, ça va, c'était drôle. Mais ça reste drôle quand même. Mais trop, ça va. Bof.
Voilà. Ok. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Dans les embouteillages, en rentrant d'Atis-Mons, Yana et Stéphane se sont posé beaucoup de questions et se sont même demandé s'ils allaient revenir pour faire ce podcast avec notre classe.
Chapitre 2. Le jour où nous avons parlé du respect, des règles, d'une charte commune et d'une sortie au Louvre.
Est-ce que pour la prochaine fois, ce serait possible de faire une charte, enfin de travailler sur une charte?
C'est quoi une charte? C'est comme la charte de la laïcité, on prend une feuille, on écrit des mots qui symbolisent beaucoup de choses.
Oui, la charte, c'est un ensemble de règles qui vont fonder ici ce que pourrait être une école de demain. Donc, la charte, elle va comprendre les grands principes que vous auriez envie de poser pour concevoir l'école, ce que pourrait être une école, une bonne école, disons.
La bonne éducation.
Une bonne école à reconstruire.
La prochaine fois, c'était le 24 janvier. Le 24 janvier, on n'avait pas fait de liste, on n'avait pas fait de charte, et on avait eu autre chose à faire. On avait oublié ce jour-là, on s'était partagé en petits groupes et on avait essayé de l'écrire.
Nous, on a parlé du CVL.
CVL, c'est quoi? Le conseil de la vie lycéenne. Vous vous êtes interrogé sur votre capacité à agir sur l'école, vous vous souvenez?
Ça, c'est Monsieur Bernal, notre prof de français. C'est lui qui a eu l'idée de ramener ses intervenants cette année.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cadre scolaire?
C'est vrai, on s'est questionné à ce moment-là, effectivement, sur le rapport au respect, vous vous souvenez? Sur le rapport au respect, sur les règles. Sur les règles qu'il y a dans le lycée et est-ce qu'elles sont respectées? Dans quel cadre on échange, quoi? Dans quel cadre on essaie de travailler ensemble?
Juste peut-être la base, c'est quoi pour vous le respect?
Vous voyez, saluer, regarder dans les yeux.
Ensuite, le débat, il a un peu dérivé. On a parlé de la légitimité ou pas de certains à fixer des règles. Pourquoi on devrait suivre des règles ou pas et qui est-ce qui les fixe, les règles?
Après la séance, les deux intervenants nous ont demandé d'aller voir nos parents pour faire un entretien, pour leur demander c'était quoi la bonne éducation pour eux. Mais personne n'a fait le devoir. Ils sont revenus le 4 avril et là on les a applaudis quand ils sont rentrés dans la salle. Stéphane et Yana n'ont pas compris pourquoi.
Pourquoi ils font ça ?
Je sais pas. Qui est-ce qui fixe les règles ?
Directeur, l'État.
La loi.
C'est l'État. Les ministres de l'Éducation nationale. C'est Macron.
Et à l'école ?
Les surveillants.
Et vous les respectez, vous, les règles ?
Non.
Oui.
Non ?
Moi, oui. Moi, je respecte.
Oui.
Ce qui m'intéresse, c'est si vous ne les respectez pas, pourquoi ?
Moi, je respecte. Parce que c'est un monde injuste.
Oui, mais c'est un peu général, tu vois.
Il y a de la justice dans le lycée, il y a de la justice, elle est favorisée, c'est mon cours. Ça ne donne pas envie de respecter le sens.
Parce que tu trouves que le monde est injuste, et donc tu te dis que les règles à l'intérieur du lycée, tu n'as pas envie de les respecter.
Non, moi, je suis témoin, je suis lycéen, ça veut dire que je sais ce que je dis.
Non, mais
qu'on a accusé à tort, on n'a rien fait. Tout ça, c'est compliqué à vivre quotidiennement.
Ok, ok. Bon discours.
Vous en pensez quoi, les autres ?
La raison.
Bah alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour fixer des règles que tout le monde serait capable de respecter ?
Bon.
Mais c'est
nous, on fait les règles.
Ah bah ça, pardon, tu fixerais quoi comme règle ?
Bah, des règles qui sont... que tout le monde peut confirmer, et pour notre bien à nous. Ah, par exemple, il y a des personnes qui veulent garder leur bonnet ou leur casquette pour cacher leur coupe parce qu'ils ne sentent pas bien, bah, ils peuvent garder.
Bah, par exemple, il y a le CVL, mais en vrai de vrai, le CVL, jusqu'à présent, ça a changé au final.
Vous ne vous sentez pas représenté par le CVL ?
Alors, je dirais pas, parce que...
Je ne sais même pas c'est qui.
On connaît pas les représentants et c'est ce qui fait le plus mal, on sait même pas de quoi ils parlent là-bas. Bah nous, ils ont jamais fait une enquête pour savoir qu'est-ce qui vous plaît.
Il y a peu de communication par rapport à ça. En fait, on sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire, on n'a pas de retour, on n'a rien par rapport à ça.
Faire des sorties scolaires, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Enfin, après, peut-être que Lucie, il a pas les moyens, mais s'il a les moyens de faire un mur d'escalade, je pense qu'on peut faire au moins une sortie.
En fait, vous auriez plein de propositions.
Oui. Bah, de plus, les musées, ils sont accessibles au lycée gratuitement avec les carnets et les transports, c'est gratuit aussi. Alors moi, je comprends. C'est pas gratuit les transports, faut payer un titre de transport, mais franchement, 2 euros par élève, c'est rien.
Alors tu voudrais aller où ?
Bah, au Louvre, je sais pas, visiter un peu.
Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je comprends pas pourquoi tu fais pas.
D'aller où ?
Au Louvre ?
Je sais pas comment on va.
Mais déjà,
si.
C'est mieux d'aller avec un professeur. C'est mieux d'aller avec un professeur parce qu'il peut nous expliquer un peu les histoires qu'il y a là-bas. Alors que si on y va tout seul, on va rien comprendre. Si on va au Louvre.
Qu'est-ce qu'il dit là ? Non mais là, qu'est-ce qu'il
dit ? Chapitre 3. Le jour du manifeste, le jour où nous avons imaginé la fin de Parcoursup.
Ils ont proposé d'écrire un manifeste. Ils nous ont expliqué qu'une classe de 3e du collège d'à côté avait imaginé un monde où en 2050, il n'y aurait plus d'éducation nationale, il n'y aurait plus que des écoles privées pour les riches. Et alors, un groupe d'activistes avait décidé de faire péter toutes ces écoles. Nous, on devait imaginer un texte qui résumait leurs revendications. On était donc... ces activistes. Nous, on avait le rôle d'imaginer un texte qui résumerait les revendications des activistes.
Déjà, pourquoi en 2050, à votre avis, les écoles auraient disparu ?
Peut-être les profs n'auraient plus envie de faire ce métier, oui, parce que c'est mal payé. Mais après, c'est les profs, ils ont décidé de transmettre leur savoir.
Quel sens ça a pour vous d'être dans l'école publique ?
On connaît pas le privé, nous, monsieur, on peut pas imaginer.
Déjà, tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans le privé, et j'imagine que c'est le directeur qui va choisir le cours et pas l'État.
D'après tout ce que je vois dans les films, dans le privé, on compare plutôt la richesse, alors que dans le public, on ne compare pas.
Quoi ? L'école publique est importante pour vous. Quel sens ça aurait de la préserver ?
Pour qu'on ait une meilleure éducation, pour tout le monde, une éducation tout court, vu qu'il n'y en aurait plus.
Je pense que tout le monde doit recevoir la même éducation et le même enseignement.
L'école publique est un lieu qui socialise, qui crée des liens.
Pour moi, c'est mieux de faire des efforts par soi-même et avoir des connaissances par soi-même.
il y a aussi un mérite de l'effort. Donc quand on fait plus d'efforts, il n'y a plus de récompense. Il n'y a plus de fierté d'avoir appris, de se dire c'est moi qui l'ai obtenu.
Ça fait un peu robotique. On n'a plus notre propre volonté. On n'apprend pas ce qu'on veut.
Il me semble que, justement, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans le débat, c'est la dissension, c'est le dissensus. C'est d'avoir la possibilité de créer des objets de réflexion et de discussion.
On s'est demandé ce que pourrait être l'école après le grand effondrement, la grande explosion. Qu'est-ce qu'on aurait envie de reconstruire, si on pouvait apprendre ce que l'on voulait, ce serait quoi et qui déciderait pour nous?
Aujourd'hui, ça dépend, on a quand même une marge de liberté. Il y a un tronc commun, mais après on fait ce qu'on veut. On pourrait apprendre seul dans les livres, ce serait comme un schéma que tout le monde a, et après on a une marge de liberté.
Il n'y aurait pas Parcoursup. Parcoursup, c'est un programme où on a plusieurs choix, et juste en fonction de nos notes, on nous met dans des universités. On supprimerait Parcoursup et on pourrait aller dans des universités, et la répartition ne se ferait pas forcément en fonction des meilleurs élèves. Avec Parcoursup, si une personne est mauvaise en mathématiques, ça l'empêche d'aller dans une bonne fac, et alors elle n'apprend plus rien parce qu'elle est dans un cursus qu'elle n'aime pas. Il faudrait donner une chance aux gens, même si à un moment donné de leur vie, ils ont été dératés.
Parcoursup, il y a quand même une grande part de hasard. Genre, au-delà des personnes qui ont des bonnes notes, il y a des personnes qui peuvent avoir des bonnes notes et qui peuvent être refusées dans d'autres universités parce que l'algorithme choisit au hasard.
Ma camarade a oublié de préciser un truc, c'est aussi en fonction des vœux. Par exemple, si moi je veux m'orienter dans quelque chose, ils vont prendre en compte mes notes par rapport à ce que j'ai demandé.
Moi je trouve que Parcoursup, ça se fait pas ce qu'ils font, parce que en mode c'est un logiciel qui détermine où on doit aller, alors que non, c'est pas comme ça que ça doit se faire de base.
Je voulais rajouter que je trouve que Parcoursup, c'est trop, il nous qualifie juste en fonction de nos notes, alors que dans d'autres matières, par exemple si je prends ce vœu là et qu'au final au suite des études ça me plaît pas, je suis obligée de rester dans cette filière-là, par exemple, alors qu'en vrai, si on n'avait pas Parcoursup, on aurait pu, par exemple, changer de vœu, changer de filière et trouver que ça nous correspond mieux. Parce qu'on a toujours, on fait toujours des choix qu'on n'apprécie pas. Et le deuxième choix, souvent, c'est souvent le meilleur.
Chapitre 4. Le jour où nous avons pensé une nouvelle organisation du temps.
Est-ce qu'on peut créer quelque chose ensemble alors qu'on est très tellement différents? Avec en âge, en culture, en tout. Ouais, avec vous. Vous et nous, est-ce qu'on peut créer quelque chose?
Bah si, on peut. Parce que si on est intéressé, on peut. Mais après, s'il y a des gens, ils font... Je sais pas comment dire.
Les oies.
Ils font n'importe quoi. On pourra pas faire.
Peut-être que c'est bien de se retrouver... pas en dehors des cours, mais... sous un cadre pour pouvoir parler d'autre chose, pouvoir s'exprimer et sortir du cadre scolaire tout en étant cadré.
Après, ça dépend si ça intéresse tout le monde. Parce que ce sujet, en quelque sorte, on le voit dans notre classe, ça ne nous intéresse pas vraiment tous, quoi. On est, ouais. C'est pour ça qu'on est un peu dissipé en quelque sorte, en tout cas ce que je pense.
Sujet, c'est-à-dire l'école.
Ouais, la bonne éducation et tout, je pense que voilà, ça n'intéresse pas vraiment tout le monde. Donc.
Ouais. Bon, en même temps, vous êtes en plein dedans, quoi. Non? C'est pour ça que vous êtes fatigué de ça, tu crois?
Peut-être, sûrement.
Après, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais moi, en tout cas, ça m'intéresse, mais... Ouais, sans plus, en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui me préoccupe vraiment, quoi.
Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on avait envie de vous faire travailler sur le manifeste, sur autre chose, sur des revendications, sur une forme, sur quelque chose qui ne serait pas forcément une discussion. Et à un moment donné, vous vous souvenez, on vous a posé la question de quoi vous avez besoin pour bien apprendre.
Animer nos leçons, nos cours. Dans le sens, pas que apprendre des leçons, faire des exercices ou quoi, mais on anime ça. Pour que ça rentre ludiquement.
Moi, pour apprendre, il me faut un coin calme, avec un petit bruit de fond, l'ASMR ou des bruits d'océan, des bruits de jungle.
Des récompenses aussi. Je sais pas, par exemple, au bout de trois bonnes notes au-dessus de la moyenne, bah, un point bonus, un truc comme ça. Enfin... Non, mais des récompenses comme ça, ça nous pousse à...
Moi je trouve, on nous met dans une salle, on nous donne une feuille, on nous dit vous devez apprendre ça pour tel jour, telle heure, etc. Alors que bah, c'est pas comme ça que je trouve que ici je pense que tout le monde penserait que c'est pas comme ça qu'on aimerait apprendre les choses. Genre, ça serait mieux, ce serait dynamique, tout le monde participerait. C'est pas une feuille qu'on doit lire et apprendre par cœur pour le contrôle, par exemple.
Des pauses régulières aussi pendant les cours. Et par exemple, sur les premières heures de l'après-midi ou du matin, bah, un temps calme pour dormir un peu, et après on travaille.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, les physiciens ont prouvé que le cerveau, pendant 30 minutes, et bah, il assimilait des choses, après il est en pause, et après on doit réapprendre pendant 30 minutes pour retenir les choses. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça sur Internet en tout cas. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. 30 minutes, une pause, et encore 30 minutes, etc. Pendant la journée.
Non, que le matin. Oui, on travaille que le matin.
Avoir moins d'heures de cours, parce que faire 8h, 17h presque toute la semaine, c'est infaisable. Et même, enfin, il y a forcément des cours où on est moins concentré.
Et les devoirs aussi.
J'étais d'accord avec Imen par rapport aux siestes l'après-midi. Parce qu'en vrai, il y en a qui habitent loin, du coup, par exemple, Chili. Et ils viennent, ils se réveillent à 6h, 5h souvent. Et ils font du 8h, 17h. Ensuite, ils doivent faire encore une heure de trajet pour rentrer chez eux. Et je trouve que c'est un peu fatigant.
Chapitre 5. Le jour où on a parlé à l'éducation nationale.
S'il y a quelqu'un qui nous écoute à l'éducation nationale, moi j'aimerais dire ça. Ça, vous pouvez, on peut avoir un petit moment comme ça, c'est le moment où jamais, profitez-en. Il n'y en aura pas, c'est la dernière fois, de l'humanité.
Ok, c'est mon moment là. Ok, s'il y a quelqu'un de l'éducation nationale, bah, je m'adresse à vous. J'espère que vous allez prendre en compte ce qu'on vient de dire et que ça changera.
Bonjour l'éducation nationale, j'aimerais m'adresser à vous. Aujourd'hui, nous sommes en STI 2D et nous voulons du changement dans les cours. On aimerait moins de cours pour avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup de m'avoir entendu.
Madame et messieurs l'éducation nationale, si vous nous entendez, rendez-nous la sieste. Elle nous manque, depuis la maternelle, elle nous manque.
Vous pouvez réenlever les cours les mercredis ? Avant, il n'y avait pas cours les mercredis. Vous pouvez retourner en arrière.
Bon, bonsoir, si vous m'entendez bien... Il y a beaucoup de demandes, etc. Entre nous, on sait que ça va rien changer, donc faites comme vous voulez, hein, écoutez.
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, l'éducation nationale. J'aimerais vous dire que, en fait, les cours l'après-midi, c'est vraiment dérangeant. Par exemple, comme dans d'autres pays, l'Allemagne et l'Espagne, ils ont cours que le matin. Et que, grâce à ça, les élèves, ils ont le temps d'apprendre. Et le soir, ils ont le temps de faire leurs devoirs. Et en plus d'avoir des trucs extrascolaires, comme faire des sports... etc. Parce qu'il y en a, ils font des sports, ils finissent à 22h, 23h, du coup, ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs et tout, etc. Voilà.
Aussi, je voulais dire, ben nous, on a des emplois du temps chargés, alors qu'on fait partie des pires systèmes scolaires de l'Europe. Non, mais c'est vrai. En fait, on a beaucoup d'heures de cours pour rien, au final.
Bonsoir, l'éducation nationale. Si vous m'entendez, moi je propose juste qu'on prenne en compte certaines idées qui ne sont pas si éloignées de la réalité que ça. Notamment le fait que les cours toute la journée soient assez épuisants, assez longs. Et surtout travailler main dans la main avec les enseignants pour peut-être trouver des idées main dans la main avec eux pour arranger au mieux les élèves. Voilà, merci.
Ok, je voulais aussi dire que on a énormément d'heures de cours et au final c'est pas assez bénéfique parce que on fait partie des pires systèmes scolaires d'Europe et faudrait changer ça.
Bonjour, bonsoir plutôt. Bah après, il ne faut pas se poser de questions si on est 33e niveau national, niveau école, parce qu'il y a un petit souci là. Il faut se poser des questions au bout d'un moment.
Je pense qu'avec le Covid, on est devenu flemmard. Et du coup.
Depuis le confinement, et ben, je trouve que avant, comparé à avant et après le confinement, il y a eu une chute au niveau des résultats scolaires.
On a trop de matière dans une journée, c'est pas possible de vraiment retenir ce qu'on a vu pendant une journée en fait. On peut pas tout retenir parce que si par exemple on a 5 matières dans une seule journée, on n'arrive pas à se concentrer là-dessus en fait, sur chaque matière.
En fait, il faudrait placer les heures de cours au meilleur moment par rapport à notre cerveau. Et ouais, voilà. Souvent, on a des longues journées et le soir, on a une heure et demie de route de transport pour le retour. On a aussi des activités extrascolaires et en plus de ça, on doit faire nos devoirs et rendre des devoirs à des temps restreints. Du coup, bah, c'est pas possible.
Vous avez l'impression que tout ce que vous dites là, que vous avez le pouvoir de changer des choses ?
Non, ça sert à rien. En fait, l'État nous donne un truc, on doit le faire jusqu'à la fin de notre vie. Et carrément, maintenant, on doit travailler jusqu'à 64 ans, je crois. On n'a même plus le choix. On est soumis à l'État.
En fait, ils nous mettent Parcoursup, ils nous mettent plein de choses. Ils nous font finir à 17h15, mais par exemple, à Pagnol, ils finissent à 17h45. Mais en fait, ils nous donnent plein de trucs, mais eux, ils n'essayent pas. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ressent. Et je trouve qu'ils devraient d'abord voir ce que ça fait, enfin, se mettre à notre position et de voir comment on vit, en gros. Comment c'est compliqué.
Il y a aussi un autre truc que je trouve pas normal. Par exemple, les grèves. Comment ça se fait que les enseignants peuvent faire les grèves et pas nous, alors que c'est notre futur qui est en jeu dans ces grèves, par exemple. Et je trouve ça pas normal que nous, on peut pas faire grève et que les enseignants et les autres adultes, ils peuvent faire grève. Voilà.
Vous savez que vous pouvez vous engager dans des conseils de la vice.
Chapitre 6. Le conseil de vie lycéenne.
Non, en fait, en vrai de vrai, le CVL, vous en rendez peut-être pas compte, mais on essaie de faire des choses en vrai de vrai. Genre, mais sans parler. Par exemple, vous voyez genre les poufs qu'il y a, par exemple, là, sur lesquels, je vais pas dire de nom, mais il y a des gens, ils dorment là carrément au bâtiment B. Et on a demandé à les avoir, ces poufs-là. On a essayé de demander à avoir une salle de repos, un truc comme ça, pour pouvoir permettre aux élèves de se reposer entre les cours. Par exemple, peut-être vous n'avez pas joué le jeu parce que. Vous connaissant, vous n'avez pas joué le jeu. Par exemple, genre la vente de roses pour la Saint-Valentin, le bal de fin d'année pour les terminales. Il y a plein de choses qu'on met en place comme ça. Mais on essaie de mettre des trucs, mais en fait, on a tellement de limites et de barrières. Par exemple, on essaie de mettre des trucs en place, genre par exemple des distributeurs dans le lycée, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les droits pour, en fait. Genre, un distributeur, ça coûte cher, parce qu'il y a des normes d'hygiène à respecter. Et on veut pas. Mais à Pagnol, c'est différent. À Pagnol, ils ont demandé des autorisations pour ça. Parce qu'on peut pas.
Mais oh là là. Mais le lycée, il a de l'argent s'il fait un mur d'escalade. Donc, vous avez de l'argent pour faire un mur d'escalade, mais vous pouvez pas installer un distributeur.
Voilà, c'est ça. Ça se résume à ça.
Ils ont mis en place un mur d'escalade. Enfin, par exemple, ils ont refait la salle de muscu. Par exemple, avoir refait la salle de muscu, ça c'est une bonne chose. Mais avoir fait un mur d'escalade, enfin, on s'en fout. À partir de la
personne qui. Vous avez un mur d'escalade parce que ça rentre en vigueur dans les prochaines années pour le programme.
Parce qu'il est en train de dire pour les
étudiants. C'est-à-dire qu'on vous a fait un mur d'escalade pour que ça change. C'est que vous voyez autre chose que les sports habituels.
On peut faire le foot au bout.
Parce que chaque projet, chaque revendication, c'est super intéressant. Mais alors, c'est combien de temps tu donnes par mois, à peu près, une estimation tu donnes par mois
Par mois On va dire 18 heures. En vrai, de vrai, 18 heures au CVL par mois.
Combien de temps ? Combien ?
18. 18 heures. Avec le temps que je passe, par exemple, chez moi, à discuter avec d'autres personnes, genre parce qu'on a un groupe pour discuter et tout, des différents... Ah oui, il y a des heures pendant les cours, oui, on a des réunions au CVL, où on va justement discuter avec anciennement l'ancien proviseur et Madame Henry et d'autres personnes de l'éducation. Il y a des profs aussi qui viennent pour discuter de ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être mis en place pour les élèves.
Je sais que ça ne va pas toujours aboutir, mais pourquoi tu continues?
Parce qu'en vrai, il y a des trucs qui pourraient peut-être passer avec le temps. Genre, si elle apprend à connaître un peu comment fonctionnent les élèves, ce qui marchait bien, ce qui ne marche pas bien, peut-être qu'elle va changer d'avis, la proviseure.
Est-ce que ils installent pas de distributeurs justement parce qu'ils ont peur que les élèves ils les cassent, ou c'est juste à cause des limites?
C'est en fait, c'est vraiment des questions d'hygiène et de droit en fait pour les distributeurs. C'est archi compliqué d'installer un distributeur quelque part.
Ah non, comment ça, des questions d'hygiène? J'ai pas compris par rapport à quoi.
En fait, genre il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a déjà le fait que ce soit de la nourriture qui est vendue aux élèves, mais également le fait que par exemple ils peuvent pas prendre, ils peuvent pas te vendre une barre de je sais pas quelle sucrerie, tu vois, comme ça. Il faut que ça rentre dans un truc en mode 5 fruits et légumes par jour.
Dans 2 ans, vous avez 18 ans, vous avez le droit de vote, c'est ça? Oui. Les prochaines élections, vous allez voter?
J'ai pas voté, qui a raison.
Qui est-ce qui compte voter aux prochaines élections?
Ma mère, peut-être. C'est quoi les prochaines?
Est-ce que, depuis le début de l'année, il y a une de vos demandes qui a été acceptée, qui a été faite?
Depuis le début du CVL.
Il y a la vente des roses, certes on le fait chaque année, mais on a dû réfléchir au prix parce qu'il y a d'autres trucs qu'on veut faire durant l'année. Il y a la table de ping-pong, même si personne s'en sert. Il y a les nouvelles tables pour manger, des trucs comme ça.
On les utilise avec des balles de basket parce qu'il n'y a pas le truc de ping-pong. Il n'y a pas de raquettes. Vraiment. Il y a une table de ping-pong, il n'y a pas de CVL, il fait les choses à moitié.
S'il y aurait les raquettes, c'est plus intéressant. Moi, je dis pas qu'on doit enlever la vente de roses, mais c'est pas un truc qui intéresse tout le monde, en fait. La vente de roses, c'est... Je vais pas dire... Ouais, en fait, c'est ça, ça gêne certains élèves. Puis il y en a qui font pas, il y en a qui osent pas. Et je trouve que c'est pas pour tout le monde, en fait.
Chapitre 7, pour conclure.
Moi, honnêtement, je pense sincèrement... moi, au début, je pensais qu'il y avait l'espoir et tout ça. Mais moi, je sais très bien, ça va rien changer. Ça veut dire... pour moi, c'est une perte de temps. C'est mon opinion.
Ce qu'on a fait ensemble, c'est une perte de temps?
Pour moi, oui.
D'accord. Mais c'est bien, t'as raison de le dire.
Moi, selon moi, c'est également une perte de temps. Mais vous, en tant que personne qui l'avait déjà fait auparavant, vous avez déjà fait des choses comme ça auparavant, des interventions dans des salles. Mais est-ce que ça a déjà abouti à quelque chose? Ouais. Ça a déjà servi à quelque chose? Il y a déjà quelqu'un qui a entendu? J'ai la loi. Ou pas? Il y a rien?
Je serais pas là, sinon.
Ah, ça a déjà abouti à quelque chose?
Bah ouais, c'est en train d'aboutir là.
Vous avez changé quoi, monsieur?
Bah oui. En fait, on nous pose plein de questions, mais en fait, nous aussi, on aimerait savoir.
Moi, je voulais répondre.
Bah oui.
Non, on veut savoir.
Mais non, vous répondez, vous ne répondez pas. Hein? Comment ça, on est gênant? C'est lui qui fait de la gêne.
Moi, j'ai bien aimé l'expérience avec Stéphane et Eliana, mais ça n'a rien servi quand même. Je tire la parole de mon collègue. Quand même, à part, sinon j'ai bien aimé.
En fait, moi aussi je pense que, non, moi je pense en fait que, je pense que, attendez. En fait, moi aussi j'ai bien aimé l'expérience, j'ai bien aimé parler de plein de choses, par exemple sur l'éducation. Mais je pense aussi, c'est pas que ça servait à rien, mais je pense qu'on va pas être écouté. Parce que je pense vraiment que, c'est pas qu'on s'en fout de notre avis, mais que ça les intéresse pas, qu'ils ont d'autres choses à faire.
Tu penses qu'il faut faire des manifestations pour être écouté?
Bon, du coup, peut-être que ça peut aboucher à quelque chose, mais jusqu'à présent, ça n'a pas changé des lois, et peut-être que ça le fera plus tard, mais il faudra encore essayer. Mais moi je crois que ce que je vois, c'est ça. Je pense que c'est optique.
Stéphane, si vous avez déjà été écouté par rapport à ce sujet-là, on verra dans un mois s'il y a des trucs qui vont changer.
Mais un mois, c'est trop court.
Un mois ou 2 mois. On verra dans l'année prochaine s'il y a des trucs qui vont changer. Parce que quand mon collègue vous a demandé s'il y a quelque chose qui a changé, on dirait que vous avez bugué, vous avez pas répondu.
D'accord. Je vais vous répondre, je vais pas bugger, ça va, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi, je vais pas bugger.
Pour moi, cette expérience a été en quelque sorte enrichissante, mais on n'a peut-être pas choisi le bon sujet à traiter, parce que, comme on a pu le voir, ça n'a pas vraiment attiré tout le monde au début, mais quand on a basculé un peu sur en dérivé du sujet, ça a plus intéressé tout le monde.
Moi, je vais être franc, je trouve que l'expérience elle est super cool, mais pour être honnête, on est tellement pas écouté à notre âge que je suis pas sûr que ça va aboutir à quelque chose.
En fait, on pense qu'on va pas être écouté parce que depuis le collège ou même des fois depuis la primaire, et on fait des trucs comme ça et on n'a jamais vu vraiment des changements. On nous a déjà demandé, par exemple, au collège, qu'est-ce qu'on voulait changer et tout, des choses comme vous êtes en train de faire. Et même si on est resté 4 ans au collège ou même plus ou moins, bah, on n'a jamais vu les changements. C'est pour ça qu'on pense que même maintenant, ça ne sert à rien, on va jamais être écouté.
Ce que simplement on peut vous dire, parce que là, vous confondez deux choses, en fait. Nous, on n'a pas le pouvoir d'agir ni sur l'État, ni sur le lycée, ni sur pas grand-chose, en fait. Le seul endroit où on peut agir, et c'est ce qu'on essaie de faire, ce qui a marché, c'est qu'on vous a laissé la parole et que vous l'avez prise.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une voix très, très calme et pas forte du tout qui a initié tout ça. C'est vraiment votre professeur de français. Donc là, il n'a pas pu être là, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en donnant de leur temps, parce qu'il a donné de son temps forcément aussi à venir à des réunions, à préparer, à se dire qu'il y aurait peut-être un échange possible dans votre classe, c'est qu'il y a des gens qui continuent à croire que même, tu vois, une discussion où tu, à la fin, tu prends la parole pour demander à un intervenant, mais alors, monsieur, ça a changé quelque chose ou pas ? Enfin, que ça sert à quelque chose. Que de poser des questions sert à quelque chose.
Chapitre 8. Lettre à mon fils.
Ce que je propose, voilà, c'est de lire un texte écrit par Gargantua, si je puis dire, dans Pantagruel, un texte sur lequel on avait travaillé ensemble. C'est la lettre qu'il écrit à son fils, dans laquelle il lui explique ce que son fils devrait apprendre. Et c'est donc Gargantua qui écrit à son fils, Pantagruel. « Mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. J'entends et veux que tu apprennes parfaitement les langues. D'abord le grec, puis le latin et l'hébreu pour l'écriture sainte, le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Pour le grec, forme ton style en imitant Platon et Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait aucun fait historique que tu n'aies en mémoire. Ce à quoi t'aidera la cosmographie établie par ceux qui ont traité le sujet. Des arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique. Je t'ai donné le goût quand tu étais encore petit, à 5 ou 6 ans. Continue et deviens savant dans tous les domaines de l'astronomie, mais laisse-moi de côté l'astrologie divinatrice et l'art de Lulle qui ne sont que tromperies et futilités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur tous les beaux textes et me les commandes avec sagesse. Quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y appliques avec soin, qu'il n'y ait mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons. Tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et kabbalistes, et acquiers une parfaite connaissance de cet autre monde qu'est l'homme. Et je veux que rapidement tu mettes tes progrès en application. Ce que tu ne pourras mieux faire qu'en soutenant des discussions publiques sur tous les sujets, envers et contre tous, et en fréquentant les gens lettrés tant à Paris qu'ailleurs. Respecte tes précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler, et ne gaspille pas les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu disposes de tout le savoir que tu peux acquérir là-bas, reviens vers moi, afin que je te voie et te donne ma bénédiction avant de mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, le 17 mars, ton père, Gargantua.